Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Caroline Lacaille, qui est Global CRM Manager chez Tiffany & Co. On est à New York. Et Caroline, on se connaît de chez Neuron.
Ouais.
On a travaillé ensemble et on est arrivé à New York à peu près en même temps.
Ouais, si je me trompe exactement.
Pas. Et on va parler de CRM et de marque de luxe. Aujourd'hui, on parle beaucoup de data, de données consommateurs. Tout le monde dit qu'il faut effectivement essayer de maîtriser sa data. Alors, tout le monde ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais enfin, on en parle beaucoup. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Évidemment, sans data, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Le CRM, ce n'est pas forcément un concept très nouveau. Pourtant, les marques de luxe, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas pris les devants sur le sujet. Ça en est où aujourd'hui, le CRM et les marques de luxe?
De ce que je vois, et je ne parle pas spécialement de Tiffany, c'est que historiquement, les marques de luxe ont toujours peur de se lancer dans des nouveautés. Donc c'est la même problématique que celle que tu abordes régulièrement sur le digital. C'est que tout le monde en parle, mais les marques de luxe sont toujours les dernières à vraiment se poser la question de savoir comment le mettre en place. Il y a une vraie peur de partager sa donnée à l'extérieur, ses informations à l'extérieur. Donc typiquement, pour qu'une marque de luxe arrive très vite sur un créneau comme le digital ou le CRM, le mieux, ce serait qu'elle passe par une agence spécialisée. Ouais. Mais ça, c'est généralement pas du tout ce que font les marques de luxe.
Elles essaient de faire in-house.
Complètement. Et du coup, le temps d'acquérir la compétence, l'infrastructure, ça met un temps fou. Et ce qui fait que la plupart des marques sont très à la traîne. Après, le CRM, il y a plein de façons différentes d'en parler. Il y a beaucoup de gens qui m'approchent pour l'aspect IT du CRM, vraiment l'outil de technique. Base technique. Moi, ce que je fais, c'est vraiment plus l'aspect marketing et stratégie.
Ouais.
Et sur ces aspects-là, c'est vrai que les marques de luxe ont un énorme avantage, qui est que les gens ont envie de partager leurs données avec les marques de luxe, les gens ont envie d'être connectés avec les marques de luxe. Pour avoir travaillé en
agence. Newsletter.
Exactement. Pour avoir travaillé en agence avec des marques comme Pampers ou Gillette, les gens n'ont pas envie d'entendre parler de couches ou de rasoirs régulièrement. C'est une galère d'aller acquérir de la donnée consommateur. Une marque de luxe, tu mets à peu près n'importe quoi avec un formulaire et les gens veulent s'enregistrer. Donc, c'est un peu un paradoxe parce qu'elles sont assises sur énormément de data et d'informations clients. Mais en parallèle, elles n'ont pas forcément les outils et la connaissance.
Donc aujourd'hui, elles ont la connaissance parce qu'elles ont la data. Mais est-ce qu'elles ont déjà les... Parce qu'en fait, quand on parle de CRM, il y a bien sûr le fait de faire du marketing ciblé, etc., etc. Mais avant ça, il y a quand même une base de données qui doit réceptionner ces informations. Il faut qu'elles soient hyper bien structurées pour pouvoir envoyer des messages ciblés, justement.
Ouais.
Est-ce que ça, c'est déjà fait, de ce que tu vois? Enfin, de ce que tu connais du marché? Alors, pas spécifiquement chez Tiffany, mais...
Non, pas en fait, en général, ce que je vois, c'est que toutes ces marques, et pareil, je travaille pour des marques de luxe aussi côté agence, elles sont assises sur la donnée, mais elles n'ont aucun moyen de l'extraire ou d'en tirer une connaissance client.
D'accord.
Et comme tu dis, ça démarre par là. C'est-à-dire que tu peux avoir les meilleurs outils du monde. Si tu n'es pas capable de lire ta donnée, d'avoir un sens de qui est mon client, qu'est-ce qu'il achète chez moi, par quoi il commence, qu'est-ce qui le fait revenir, tu peux créer tout ce que tu veux derrière tant que tu n'as pas là, cette base de la connaissance client.
Et tu penses que les clients de marques de luxe, là je pense aux clients de Tiffany en particulier, mais ça peut être après, ça pourrait être la même chose chez Cartier ou autre, ils ont envie de recevoir des newsletters qui sont personnalisés. Alors je sais que dans les bijoux en particulier, il y a cette problématique de, alors c'est horrible, mais de la maîtresse, donc du coup faire attention à qui on envoie les newsletters, quand on envoie les newsletters, et pas faire de bévues sur ce genre de situation gênante. Est-ce que ça, les marques de luxe, comment elles le gèrent aujourd'hui?
En général, on est de toute façon, et que ce soit le luxe ou pas, on est extrêmement précautionneux sur l'usage de la donnée qu'on utilise. J'ai travaillé en milieu bancaire, et c'est la même problématique. Tu sais à peu près ce qu'ils ont sur leur compte et combien de comptes bancaires et s'ils ont des enfants, etc. Il y a plein d'informations que tu sais de base. Après, je pense que historiquement, les clients, moins les nouvelles générations, mais les clients sont extrêmement sensibles au côté Big Brother, de tout ce que tu sais sur moi, etc. Donc, luxe ou pas, c'est toujours quelque chose de très sensible. Après, l'avantage d'un Tiffany, d'un Cartier, d'un Van Cleef, c'est qu'ils maîtrisent leur contrôle de leur distribution. Ouais. Ils ont leur propre magasin. Encore une fois, je pense à Procter, pour qui je travaillais pendant longtemps. Eux, ils doivent dealer avec Amazon, qui doit bien avoir envie de vouloir leur donner l'information client, de faire des dynamiques avec eux, etc. Donc, c'est une autre mécanique et c'est bien plus complexe, je trouve, en tout cas moins excitant pour moi.
Quand tu n'es pas en direct consumer, c'est sûr que c'est plus compliqué.
Exactement. L'avantage de marques comme les nôtres, c'est qu'on maîtrise notre réseau de distribution et qu'on a des moyens de former nos vendeurs à identifier des données sensibles et typiquement de faire attention à ce genre d'informations. Mais après, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de règles. Si un client n'importe où achète quelque chose pour sa maîtresse et donne son consentement et partage une adresse email qu'il partage avec sa femme, il va recevoir des emails et puis il va falloir qu'il gère sa situation, quoi. C'est ça. Généralement, je pense que les clients qui font ça sont précautionneux de pas donner leur consentement, d'être contactés, et puis finalement on fait pas face à des situations comme ça. D'accord. Trop souvent, en tout cas pas que je sache.
Et alors, tu disais tout à l'heure, pour que les marques de luxe développent le CRM, il faudrait qu'elles utilisent des agences spécialisées, parce qu'elles essaient de développer les outils in-house et nécessairement elles sont moins rapides que des agences spécialisées où ils investissent des millions, voire des dizaines de millions de dollars tous les ans sur leur outil. Donc nécessairement, une marque de luxe, elle ne peut pas le faire et elle ne peut pas être au même niveau. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre pour que les marques de luxe, elles récupèrent quelque part leur retard, parce que finalement, elles pourraient utiliser cette data et ça pourrait être hyper intéressant. Voire on pourrait imaginer que si c'est anonymisé, elle pourrait vendre de la data, mais enfin ça c'est encore une autre étape. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elles y aillent plus franchement, Vania?
Je pense qu'il y a au-delà de... Il y a vraiment un aspect IT et infrastructure. Ouais, il faut vraiment que, d'une part, tout comme le digital, il faut qu'il y ait une vraie volonté des senior leadership de vouloir investir dans la connaissance client, dans le CRM, dans la personnalisation du contenu, dans des parcours clients uniques. Et pour ça, il faut du coup du budget, des équipes. Et pas toutes les marques font ça. J'ai la chance de travailler pour une marque qui vraiment s'intéresse à son client. Et je suis partie d'un département qui s'occupe de la connaissance client. Toutes les marques ne font pas ça. Exactement, je pense que j'ai dû lire une quantité astronomique de postes de ta part où les marques créent un chief digital officer et puis en fait derrière il est tout seul, il y a trois personnes pour gérer un truc colossal et du coup ça vient jamais à jour. Donc je pense que c'est quelque chose où je sens que les marques commencent à se rendre compte que tiens, il faut que le client soit aussi au centre de mes préoccupations. Donc créer ces équipes, et après il y a toute l'infrastructure IT, avoir des bases de données qui sont à jour, comme tu disais, qui soient interconnectés avec toute l'information omnicanale. Ouais. Parce que c'est quand même aussi le grand sujet pour moi dans le CRM, c'est que typiquement, il n'y a pas que mon client est venu, il s'est enregistré pour des emails, je lui envoie des emails. Ce client, il va voir des vendeurs en boutique, il achète en boutique, il va peut-être recevoir des SMS de son vendeur, il va aller sur mon site, il va liker des produits, il va aller sur Facebook. Et il y a vraiment un besoin d'avoir la structure pour reconnecter tous ces points de l'omnicanal et savoir comment interagir au mieux avec chaque client. Ouais. Et ça, du coup, c'est un énorme travail, c'est un énorme budget. C'est pour ça que, oui, les marques de luxe sont très en retard. Oui, il y aurait des moyens d'accélérer un peu le processus. Mais en fait, il y a aussi un besoin de vraiment de budget et que ça soit une priorité pour une marque pour que ça s'accélère exponentiellement.
Est-ce que tu penses, parce que si ce n'est pas une priorité, on pourrait aussi se dire que c'est peut-être parce que ça n'a pas d'impact en termes de business, le CRM.
En fait, la problématique avec le CRM, c'est que tu mises sur le long terme et que beaucoup de marques sont cotées en bourse, ont des boards, ouais. des investisseurs qui veulent voir les résultats tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans. Le problème du CRM, et il me semble avoir entendu qu'à un moment donné, Amazon s'est dit on va perdre de l'argent, mais on va construire sur l'expérience client. Et donc pendant un certain temps, ils savaient qu'à court terme, ils perdaient de l'argent, mais ils savaient qu'à long terme, ça allait se récupérer. Et il faut pouvoir avoir les reins solides de dire, OK, ouais. je vais investir dans quelque chose qui à court terme ne va peut-être pas rapporter grand-chose, ouais. mais qui à long terme aura un vrai bénéfice. Et c'est là la grosse problématique pour moi. C'est plus qu'il faut rendre des comptes aux investisseurs régulièrement.
Mais moi, j'ai vu aussi pas mal de marques investir dans des systèmes CRM, beaucoup d'argent. Comme elles investissent aujourd'hui dans des outils d'écoute du buzz, donc du buzz monitoring. Et en fait, il n'y a personne derrière pour s'en occuper. C'est-à-dire que clairement, ils investissent dans des trucs et puis ils envoient des emails qui sont à peine personnalisés parce que la machine, elle est géniale. C'est comme quand on prend un iPhone, on en a tous les deux un sur la table et qu'on se sert de 10% des capacités du truc parce qu'en fait, on ne sait pas s'en servir. Ouais. Et on investit, enfin, étonnamment, on investit, ce que tu disais un petit peu, mais on n'investit pas dans les hommes. Pour s'en servir.
C'est ça. Et il y a surtout à la fin aussi une problématique de, d'une part, avoir la connaissance, de savoir personnaliser, faire des parcours clients uniques, etc. Mais le cas d'un parcours client unique, disons que toi et moi, on est tous les deux inscrits à la newsletter de Cartier. Cartier sait que toi, tu es plutôt intéressé par les montres et moi plutôt par les bagues. Ce qu'il va falloir faire, c'est... un peu cliché. Ce qu'il va falloir faire, c'est créer des communications sur les montres pour toi, sur les bagues pour moi. Donc, tu vas décupler la quantité d'assets, de création dont tu as besoin pour parler individuellement à Grégory Pouy, à Caroline Lacaille, à tous les autres clients. Et du coup, il faut avoir la capacité de gérer un volume de création personnelle. Donc c'est pour ça que la plupart des marques, et c'est la chose à faire, commence par du one to few. On commence à mettre des groupes de clients ensemble et faire plus de versions pour des groupes de clients. Pour un jour, j'espère, arriver à du one to one et qu'on soit capable d'envoyer au bon moment la communication sur le produit qui, on sait, est ta priorité.
Et ça, c'est des choses sur lesquelles Tiffany investit déjà, typiquement ?
Je pense que c'est la vision de nos départements, c'est la vision pour toutes les marques. En fait, ouais. quand on parle, tout le monde te dit, mais bien sûr, ouais, et on est tous des clients de marques, on est tous des clients fidèles de certaines marques et on est toujours choqués qu'il n'y ait toujours pas de personnalisation, que tu reçois toujours des emails pour des sujets qui n'ont jamais été ton centre d'intérêt. Donc, je pense que c'est effectivement la vision ultime de n'importe quelle marque en CRM. La chance que j'ai chez Tiffany, c'est qu'encore une fois, on a vraiment un département qui est dédié au CRM. Il y a une vraie intention, en tout cas.
C'est pas forcément le cas. En particulier dans les groupes, t'en parlais tout à l'heure. Alors, c'est vrai que Cartier, etc., vous avez vos boutiques, donc ça change pas mal la chose, la donne, parce que vous êtes en direct avec les consommateurs. Mais il y a plein de groupes, parfois avec lesquels je travaille, qui sont... pas en direct, tu faisais référence, et qui sont quand même pas nécessairement dans le luxe, mais parfois dans d'autres secteurs, et qui n'ont pas de données, en fait. Mmh. Et du coup, ils sont très tributaires de Facebook, de Google, d'Amazon, parce qu'ils n'ont pas l'information.
Ouais. Bah, je vais faire un name dropping, parce qu'il y a un exemple que je trouve qui a été vraiment malin depuis le début, c'est Caudalie.
Ouais.
Caudalie a ses spas, mais Caudalie vend beaucoup, je pense principalement en dehors de leur boutique en nom propre.
Mais
ce qu'ils ont fait depuis le départ, c'est qu'ils ont créé leur programme de fidélité avec des codes uniques dans les packagings de chacun de leurs produits. Donc si aujourd'hui tu achètes une crème de jour chez Caudalie, dans le packaging en carton, tu as un code unique que tu vas rentrer sur le site Caudalie. D'accord. Donc que tu l'aies acheté en pharmacie, chez Caudalie, sur leur site e-commerce, peu importe, tu rentres ton code et... Bien sûr, il y a un système de points, de fidélisation, etc. Mais en même temps, Caudalie a une notion en permanence de qu'est-ce que j'achète, que ce soit chez eux ou dans leur boutique ou pas. D'accord. Et je trouve que c'était quelque chose qui était hyper malin et relativement avant-gardiste pour une marque de cet âge, qui doit avoir quand même déjà une bonne dizaine d'années, d'avoir pensé à ça dès le départ pour finalement passer outre le fait qu'ils ont des revendeurs et des intermédiaires et quand même collecter la donnée et quand même collecter l'information produit au-delà de l'information client qu'ils peuvent connaître.
Quand, et ça, c'est hyper important.
C'est hyper malin et c'était très simple. Mais il faut penser depuis le départ parce que typiquement, imprimer un code unique dans chacun des packaging de tous tes produits, c'est un coût, c'est une logistique. C'est, il faut vraiment prévoir le système depuis le départ et ils l'ont fait et je trouve ça vraiment très malin.
Et alors du coup, j'imagine que... Enfin, si on n'en est pas là, j'imagine que du coup l'intelligence artificielle et le clustering automatique ou, la, ou le fait qu'on mette dans des classes des clients de manière automatisée via de l'intelligence artificielle, on n'y est pas non plus encore.
On n'y est pas encore. Après, il y a énormément de dynamique vers tout ce qui est les prédictions. Ouais. Ça fait longtemps que c'est sur le marché, c'est juste que de plus en plus on a besoin d'aller vers ça, donc ça va devenir de plus en plus la préoccupation des managers de CRM, quelle que soit leur industrie. Ouais. Mais effectivement, enfin, après je pense que de base, en écoutant Aurélie Jean dans un de tes podcasts, l'intelligence artificielle elle est déjà là, on s'en sert déjà dans plein de domaines, juste que maintenant on a mis un nom dessus et que ça fait peur à tout le monde.
C'est ça.
Mais en vrai on s'en sert déjà beaucoup de toute façon et je pense que ça va effectivement aider énormément le CRM en tout cas à se développer et à faire des choses plus malines et plus automatisées comme tu disais.
Donc du coup, si je résume, on a un, besoin d'une prise de conscience et d'acceptation, deux, besoin d'investir sur les bases de données en tant que telles et de la machinerie, et trois, de l'humain, pour ensuite mettre en place, c'est ça en fait. C'est finalement les étapes.
Oui, et après, ben, typiquement pour les marques de luxe, pour revenir un peu plus là-dessus, il y a encore le pouvoir qu'ils ont de maîtriser leur boutique. Et du coup, pour moi, la marque de luxe reste la marque où j'ai pas vraiment envie d'acheter en ligne, franchement. J'ai envie d'aller chez Cartier, de sortir avec mon petit sac rouge. J'ai envie d'aller chez Tiffany, de sortir avec mon petit sac bleu. J'ai envie de vivre l'expérience en boutique.
Bien sûr.
Et je pense que malgré ce, particulièrement pour les marques de luxe, l'expérience client en boutique reste un élément très très important. J'ai entendu Ian Rogers, le CEO de LVMH, il y a pas longtemps, qui rappelait l'importance de cette expérience. Mmh. Beaucoup de marques, et c'est bien sûr en termes de ROI, maximisent l'utilisation digitale, le fait d'avoir des emails, etc. Mais l'expérience en boutique reste quelque chose de très important dans le luxe.
C'est
pour le CRM, ça reste une composante qu'il faut continuer à chouchouter, à cultiver. Et pour moi, c'est un des aspects qu'on n'a pas trop couvert, mais qui est bien sûr tout à fait intuitif.
Et du coup, toi, moi, j'ai tendance à penser, alors je ne sais pas si tu as suivi, mais il y a de plus en plus d'industriels qui partagent leurs données. J'en parlais tout à l'heure, j'ai juste fait mention, mais... Mais qui partagent leurs données. Par exemple, il y a la presse en France, donc le Figaro, Le Monde, etc. Il y a dernièrement SNCF et Blablacar qui ont partagé leurs data pour faire face aux GAFA. On en parlait tout à l'heure. Moi, je crois, il y a un podcast avec Fred Cavazza où il explique que ça serait intelligent que, par exemple, des marques d'habillement partagent leurs données sur les tailles, par exemple, c'est des données anonymisées et tout le monde en profiterait dans l'industrie, en tout cas tous ceux qui participent. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose que les marques de luxe pourraient imaginer un jour, de se dire, bah, finalement, je vais partager de la data anonymisée avec d'autres personnes du secteur pour améliorer mon marketing ou améliorer mon CRM ou améliorer la manière dont je fais les produits ou...
Je pense que tout est possible. Et je vais te raconter une petite anecdote. J'ai fait un stage chez Chanel à Paris, en parfum beauté, il y a 15 ans. Et à l'époque, je venais de me faire percer le haut de l'oreille. Et ma mère m'a regardée en me disant « Tu enlèves ce piercing avant de commencer chez Chanel. » Et pour moi, c'était évident. Et bien sûr, j'allais commencer chez Chanel. Il était hors de question que je commence avec un piercing. Ça n'allait pas du tout avec les codes de marque. Fast forward, 10 ans plus tard, tu te retrouves avec des mannequins tatoués, percés. Ouais. Chez Chanel, il n'y a pas de problème. C'est normal. Et il y a 15 ans, tu m'aurais dit... Est-ce qu'un jour, Chanel aura des mannequins tatoués? Je leur ai dit, je pense pas. Et au final, les marques mettent le temps, mais finalement, elles s'adaptent. Donc, je pense que ce n'est pas impossible. Je pense aussi que tout ce qui est partage de données et utilisation des données acquises par un intermédiaire ou un tiers, il faut que ça soit bien utilisé parce que ce qu'on voit aujourd'hui avec l'utilisation des cookies où on te suit partout, où tu te retrouves, moi ça fait trois semaines que j'ai acheté une paire de bottes et je me retrouve avec la même paire de bottes sur toutes les bannières. T'as envie de leur dire, mais je l'ai acheté, je vais t'arrêter de me suivre. Y a aussi beaucoup de choses comme ça où il y a des choses malignes qui sont mises en place, mais elles ne sont pas pensées du point de vue du consommateur. Ouais. Elles sont pensées comme moi derrière mon bureau.
Point de vue ROI.
Voilà, du point de vue ROI. Mais à un moment donné, il faut se poser la question de qu'est-ce que le client voit effectivement, ouais, et de le faire de manière maligne. Donc, ouais, quand. Dans ton cas, utiliser la taille pour que ça soit naturellement poussé dans ta recherche quand tu arrives sur une autre marque. Ouais, il faut juste pas trop pousser parce qu'il faut que ce soit cool pour l'utilisateur, mais pas que ça soit trop poussé pour que ça devienne vraiment
rébarbatif
et vraiment ennuyeux pour le client à la fin.
Je vois. Et alors, ce podcast, il s'appelle Blanc. Mm-hmm. À qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui?
Je vais essayer, j'ai beaucoup aimé, je crois que c'est Georges Mohamed Chérif qui était très positif et j'ai trouvé ça vraiment bien de dire on va pas dire Vlan en mode je claque la porte. J'avoue que le CRM, ça fait comme si ça fait très longtemps qu'on en parle. Ouais. Ça a mis beaucoup de temps à décoller, mais je sens qu'il y a une vraie dynamique en place et que les marques commencent à se réveiller. Donc j'aimerais juste que la plupart des décideurs se rendent compte qu'il ne s'agit pas juste de dire « moi je pense à mon client » et d'ailleurs j'ai, je ne sais pas, un chief customer officer ou quelque chose dans ce goût-là qui est en place.
Que les marques n'ont pas en général.
Que les marques n'ont pas en général, mais vraiment se donner les moyens de faire un bon mix. Parce que tu ne peux pas aussi dire « je fais tout avec le client au centre, tu as besoin d'un bon produit, tu as besoin d'une bonne stratégie CRM, tu as besoin d'une bonne stratégie e-commerce, etc. » Mais vraiment que le client fasse partie du mix des préoccupations et des stratégies, et pas juste se dire j'ai quelqu'un qui s'occupe du CRM, c'est cool, je check la box et puis c'est cool. Donc vraiment se donner les moyens de rentrer ça dans leur mix et dans leur considération.
Cool, merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.